Ce soir, nous allons lire un passage qui se trouve dans le Premier Testament, dans le livre du prophète Ézéchiel. C'est Ézéchiel qui parle. Je regarde, une main est tendue vers moi. Elle tient un livre en forme de rouleau. Elle le déroule devant moi. Des chants de tristesse et de deuil ainsi que des plaintes sont écrits des deux côtés du rouleau. Celui qui me parle me dit « Toi, l'homme, mange ce qui est devant toi. Mange ce rouleau, puis va parler aux Israélites. » J'ouvre la bouche et il me fait manger le rouleau. Ensuite, il me dit « Toi, l'homme, remplis ton ventre, nourris-toi de ce rouleau que je te donne. » Je le mange donc. Dans ma bouche, il est doux comme du miel. Celui qui me parle me dit « Toi, l'homme, va vers les Israélites et répète-leur ce que je vais te dire. Je ne t'envoie pas vers un peuple qui parle une langue étrangère difficile à comprendre. Je t'envoie vers le peuple d'Israël. Si je t'envoyais vers les peuples nombreux qui parlent une langue étrangère et difficile à comprendre et qui est obscure pour toi, ils t'écouteraient. Bizarrement, les Israélites, eux, ne voudront pas t'écouter, bien qu'ils parlent la même langue que toi. » Parce qu'ils ne veulent pas m'écouter. Oui, ils ont la tête dure et le cœur fermé. Voilà, donc c'est tout un programme d'office. Il est envoyé pour parler à des gens dont il sait qu'ils ne veulent pas l'écouter. C'est quand même frustrant comme programme, puisqu'il connaît d'entrée l'échec de la situation dans laquelle il est propulsé. Alors, au travers de ce texte, on a quand même cette expérience un petit peu bizarroïde qui nous est décrite, à savoir que le prophète Ézéchiel est amené à vivre cette expérience un peu bizarroïde d'être confronté au texte biblique, mais d'une façon bien particulière quand même, parce que dans nos confrontations au texte biblique, on est assez rarement appelé par Dieu à manger le texte. Là, dans l'histoire d'Ézéchiel, il s'agit en réalité d'une façon dont le Seigneur essaye de faire comprendre quelque chose à Ézéchiel. Ézéchiel est comme tout le monde, il connaît les Écritures, il a les rouleaux de la Torah et il essaye de les consulter. Et comme chacun d'entre nous, si nous sommes ici un dimanche soir dans un temple chrétien protestant, c'est parce que d'une façon ou d'une autre, il y a un petit truc qui s'est connecté avec Dieu, peut-être pas encore, ou peut-être seulement bientôt, ou peut-être il y a longtemps. Quoi qu'il en soit, au début où on commence à essayer de fréquenter ces écritures bibliques, on le fait souvent un peu par obligation, on ne comprend pas très bien quel est l'intérêt. Bon, je veux bien être chrétien, mais alors pourquoi faudrait-il à tout prix que je lise la Bible ? Ça peut paraître cohérent, parce que c'est connaître un petit peu les histoires qui sont dedans. C'est une culture, c'est un bagage, c'est quelque chose qui est important d'avoir dans sa tête parce que comment dire qu'on suit Jésus-Christ si on ne sait rien sur Jésus-Christ? Donc assez logiquement, je rejoins les Écritures bibliques pour découvrir deux ou trois réalités de la vie de ce Jésus-Christ. Mais au début, c'est un petit peu formel et principiel comme ça et on n'a pas forcément une très grande facilité à rejoindre le texte vraiment de façon vivante. C'est plutôt informatif. C'est plutôt pour aider et nourrir notre intellect. C'est plutôt pour permettre à notre connaissance d'augmenter. En réalité, c'est là un piège. C'est là un piège parce que les Écritures bibliques ne sont pas là pour nous informer, mais elles sont là pour nous transformer. Ce n'est pas la même chose. Pour passer de l'information à la transformation, que faut-il ? Il faut que l'Esprit de Dieu soit autorisé à se saisir de ce texte pour que ce ne soit pas simplement notre esprit personnel ou même notre intelligence qui s'en saisisse parce que, bien entendu, notre intelligence n'a pas les moyens de comprendre tous ces trucs. Et assez légitimement, rapidement, quand on lit les Écritures bibliques, surtout si on a eu la mauvaise idée de commencer par le premier chapitre de la Genèse et de penser qu'on va aller jusqu'au dernier chapitre de l'Apocalypse, on a assez rapidement des déceptions et je connais très peu de gens qui ont passé le cap du livre des Nombres. Le livre des Nombres qui est truffé de généalogies du peuple d'Israël qui sont parfaitement imbuvables, inintéressantes et apparemment inutiles. Je dis bien apparemment parce qu'en réalité, si elles sont là, c'est qu'elles ont quand même une utilité. Mais cette utilité, pour qui rentre dans le texte biblique d'un point de vue intellectuel, est complètement nulle. C'est vrai. Ça n'a aucun intérêt de savoir que Ézéchias est né de Jéroboam, que Jéroboam est né de Jotham, que Jotham est né de... Bon, c'est tout à fait intéressant peut-être de connaître sa généalogie personnelle, mais la généalogie d'un obscur roi du peuple d'Israël en 597 avant Jésus-Christ, ce n'est pas exactement les choses qui vont modifier ma vie au jour le jour. Ce qui veut dire que finalement, cette écriture biblique, nous devons pas simplement la faire pénétrer dans notre tête par les deux canaux que sont notre oreille ou notre œil, mais nous devons, et c'est ça que Ézéchiel va expérimenter, nous devons l'ingurgiter. L'ingurgiter en profondeur, non pas pour nourrir nos pensées ou nos intelligences, mais pour en nourrir tout notre être. Et c'est ce que Dieu fait en présentant un rouleau de peau de chèvre, hein, c'est quand même pas extrêmement digeste, un rouleau de peau de chèvre écrit des deux côtés avec des chants de deuil, de lamentation. Super, en plus. Hein. C'est de l'encre particulièrement noire qui est dessus. Hein. Alors, Ézéchiel mange ce rouleau et, à sa grande surprise, parce qu'il s'est laissé conduire par l'Esprit de Dieu, il mange ce rouleau et le texte nous dit « c'est doux comme du miel ». Si vous avez déjà goûté à la peau de chèvre écrite à l'encre de sèche avec des chants de deuil, mais le sentiment premier qu'on a quand on nous décrit une situation comme celle-là n'est pas que ça va être doux comme du miel. Et pourtant, c'est doux comme du miel. Alors, l'historicité de ce passage, je ne la connais pas, je ne l'ai pas vérifiée, et à la rigueur, qu'importe. J'aime bien ce que dit Elie Wiesel, vous savez, ce penseur juif qui a beaucoup aidé l'Occident à réfléchir sur la Shoah, et qui dit notamment que on ne sait pas si Job a existé, mais en tout cas, il a beaucoup souffert. Ce qui est une façon de dire que ça n'a strictement aucune importance que Ézéchiel ait réellement mangé tout un rouleau en peau de chèvre, ou qu'il y ait simplement goûté, ou que ce soit une métaphore de la foi. Ça n'a aucune importance. Ce qui a de l'importance, en revanche, c'est de réaliser que nous avons besoin d'ingérer le texte biblique et aussi de le digérer pour que notre vie, je le disais tout à l'heure, ne soit pas seulement informée, mais transformée. Pour que notre vie soit finalement aussi un lieu où Dieu peut habiter, que l'espace de notre corps soit un lieu que l'Esprit de Dieu peut vraiment remplir. Et pour qu'il puisse être rempli, il ne faut pas simplement que ce soit le maigre espace de notre cervelle consacré à la mémoire qui soit habité par Dieu. Alors, en découvrant et en redécouvrant cette réalité qui a été vécue par le prophète Ézéchiel, nous pouvons aussi comprendre un deuxième niveau de nécessité pour cette fréquentation des Écritures bibliques. Et ce niveau de nécessité, il est le suivant. Si dans l'existence, nous sommes confrontés, comme c'est le cas pour chacun d'entre nous au jour le jour, à des événements tantôt joyeux, tantôt difficiles, nous sommes comme des éponges. Pas simplement quand nous sommes enfants. Quand nous sommes enfants, nous sommes terriblement comme des éponges. Nous absorbons tout ce qui est là autour de nous. Nous prenons tout ce qui est dit par des adultes pour une vérité, le meilleur comme le pire. Et même quand nous continuons à être adultes, nous ingérons des tas de paroles, des tas de vérités ou des tas de contre-vérités. Mais finalement, nous prenons tout un peu au même niveau. Tout fait parole d'évangile, comme on dit en français. Et si quelqu'un a un petit peu d'aplomb, il est capable de vous vendre la tour Eiffel. Vous savez qu'il y a des gens qui ont fait fortune en vendant la tour Eiffel à des touristes américains qui ont acheté des parts de la tour Eiffel, qui, bien entendu, n'ont pas eu le titre de propriété à terme. Donc si on a beaucoup d'aplomb, on peut simplement faire gober n'importe quoi à n'importe qui. Et plus c'est gros, plus c'est possible. Plus c'est gros, plus c'est faisable. Et alors, il y a des tas de paroles comme ça qui viennent sur nous, des paroles qui sont bonnes et des paroles qui sont mauvaises. Il y en a une qui est terrible et qu'on entend très souvent, c'est « Mais t'es complètement nul ou quoi ?» Vous l'avez sûrement entendu, ça. Vous avez sûrement eu des occasions d'entendre cette parole prononcée pour vous. « Mais t'es complètement nul ou quoi ?» Et en plus, il faut qu'on réponde. Et vraisemblablement, la question n'est pas extrêmement ouverte. La personne s'attend à ce que nous faisions allégeance à son discernement, comme quoi effectivement nous sommes complètement nuls et te remercions de nous avoir confirmés dans ce jugement. Bien entendu, si toute votre enfance vous avez été aussi structuré dans cette certitude que vous étiez complètement nul, il y a quelque chose qui est fondamentalement inscrit dans votre intelligence, dans votre cerveau. Et cette parole vient finalement corroborer, confirmer une fois de plus que vous êtes complètement nul et que, eh bien voilà, chaque génération vous le dira, chaque personne nouvelle viendra vous attester de cette vérité universelle. Si en revanche vous avez un petit peu fréquenté les écritures bibliques, il va y avoir un débat qui va se structurer en vous quand vous allez entendre cette parole « tu es complètement nul ». Pourquoi un débat va démarrer ? Tout simplement parce que vous savez qu'il y a d'autres paroles fondamentales qui ont été dites sur vous et qui ont été dites par plus grand que vous, pas simplement par vos parents, mais notamment par le Seigneur lui-même. Notamment cette parole du psalmiste « je te loue Seigneur, parce que je suis une créature merveilleuse ». Ça, c'est un truc que j'ai inscrit sur un t-shirt que j'ai filé à quelques-uns d'entre vous, écrit à l'envers pour pouvoir le porter pendant la nuit et le voir le matin au réveil devant la glace. Je suis une créature merveilleuse. C'est le moment où on a le plus besoin de le savoir, en règle générale. Si on est assuré de cette parole, je te loue Seigneur parce que je sais que je suis une créature merveilleuse, toute la vraisemblance de ce que nous renvoie le miroir, toute la vraisemblance de ce que nous renvoient les paroles de ceux qui nous disent que nous sommes nuls ou quoi, toute cette vraisemblance est simplement brisée. Parce qu'il y a en nous une assurance qui n'est pas simplement déposée par les autres avec toute l'incertitude des vérités ou des contre-vérités qu'ils nous diraient, mais qui est une assurance profonde qui a été placée là par le Saint-Esprit, par le moyen, par la médiation des Écritures bibliques. Ça, c'est pour une vérité personnelle. Après ça, aussi, on peut entendre des tas de choses. Puis vous savez qu'on est dans une société qui est multiculturelle, donc les gens sont très ouverts, hein, tellement ouverts que des fois, il y a des courants d'air. Alors, en ce moment, le truc qu'on entend partout, c'est, voilà, la vie spirituelle, c'est une montagne. Il y a plein de chemins partout. Et en haut, on arrive tous à Dieu. Waouh ! C'est super, ça. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Ça caresse dans le sens du poil, comme ça, on est sûr qu'on ne va pas s'engueuler avec ses voisins bouddhistes, on est sûr qu'on ne va pas avoir d'ennui avec son collègue musulman. C'est super, tout le monde monte la même montagne, et en haut, c'est la fête. Et nous, on est contents parce qu'on a pris le chemin de Jésus, mais il y a ceux qui ont pris le chemin de Bouddha, ceux qui ont pris le chemin de Michel Onfray, ceux qui ont pris le chemin... voilà. Alors voilà, cette image, elle nous fait plaisir parce qu'il y a l'image là d'une humanité qui est réconciliée et on se dit « Ah, mais c'est peut-être ça que le Seigneur voulait dire quand il disait que toutes les nations se rejoindraient sur la montagne de Sion pour adorer l'Éternel. » Et puis en même temps, parce qu'on a aussi avalé un autre rouleau qui est le rouleau de Jean, de l'évangile de Jean, on sait que Jésus a dit qu'il était le chemin, la vérité, la vie. Et que personne ne pouvait aller vers le Père, sinon par lui. Alors qu'est-ce que je garde ? L'image qui me fait plaisir ? Ou l'image que je reçois du Fils de Dieu, le seul qui a vu Dieu, le seul qui connaît Dieu, le seul qui est chemin vers Dieu ? Gros débat. Vous voyez en quoi cette présence et cette ingestion, cette digestion des Écritures bibliques est une nécessité pour nous, pour ne pas être ballottés au gré des critiques, au gré des dogmes de l'actuelle pensée unique du New Age, au gré de toutes ces paroles qu'on entend à droite à gauche, comme quoi il est normal aujourd'hui, quand on est français, de lapider le président de la République. Ben non. Il est normal de bénir celui que nous avons élu, pour qu'il essaye d'être le moins décalé possible par rapport à ses obligations. Eh oui. Mais bénir implique de ne pas lapider. On ne peut pas bénir avec une pierre. Si nous ne savons pas ces choses-là, nous sommes forcément désajustés dans l'existence. Nous sommes forcément d'abord influencés par ce qui va nous faire plaisir. Et ce qui nous fait plaisir au premier degré, au premier moment, n'est pas forcément ce qui est bon pour nous. Ce qui nous fait plaisir en apparence peut amener d'immenses frustrations si nous nous complaisons à rester dans cette route-là. Alors, nous avons un infini besoin de connaître les Écritures bibliques, non pas pour penser que nous allons être tout-puissants dans notre capacité à percevoir le réel, mais simplement parce qu'il nous faut donner du matériau à Dieu. Il nous faut donner de la matière à Dieu pour qu'il puisse influencer notre vie. Si je ne sais pas que c'est Jésus qui est le chemin et que nul ne peut venir à Dieu que par lui, comment est-ce que je peux dire « Saint-Esprit de Dieu, travaille ma vie » ? Si je ne sais pas que je suis une créature merveilleuse et que ce n'est pas quelque chose qui est prononcé pour avoir les chevilles qui enflent, mais simplement pour remercier le Créateur, parce qu'on ne remercie pas le tableau au Louvre, on remercie le peintre. Si je ne sais pas ces choses-là, je ne peux pas me caler correctement, trouver la juste posture dans l'existence. Je ne peux pas laisser le Saint-Esprit travailler ma vie intérieure pour transformer ma vie intérieure et extérieure. Quand nous sommes là à dire « bon, ben voilà, oui, je crois qu'il y a un Dieu, et puis tout va aller bien, puisque tout concourt au bien de celui qui considère qu'il y a un Dieu. » Continuez, voilà. Allez plus loin. Allez plus loin, continuez, lisez la suite. Lisez la suite, et vous verrez que c'est un peu plus que ça. Quand nous voulons vraiment que le Seigneur dirige notre vie, nous ne pouvons pas faire l'économie de lui donner les moyens de diriger notre vie. Et sans la présence des vérités bibliques dans notre cœur, dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit, Dieu ne peut simplement rien faire pour nous. Il est comme un potier dans une entreprise de céramique à qui on ne fournit jamais de la terre. Dieu est au chômage technique avec beaucoup d'entre nous, simplement parce qu'il n'a pas le matériau pour faire son travail. Alors, vous vous doutez que en percevant, en regardant à nouveau frais notre rapport aux Écritures bibliques de cette façon-là, ça change un peu les perspectives. On peut supporter les chapitres 17 à 18 du livre des Nombres. On peut laisser s'égrener la généalogie de Jésus dans notre oreille. Et puis un jour, on va comprendre qu'elle est très bien construite et très intéressante. Et qu'il y a 14 générations d'Abraham à David et 14 générations de David, etc., etc. Et on va comprendre des tas de choses qui sont en fait vitales et qui nous disent des choses fondamentales sur le Christ. Nous avons un infini besoin de retourner aux Écritures en disant au Seigneur, bah, « Écoute, je me laisse traverser par cette parole. » Et puis façonne-moi, utilise ça pour me permettre d'éclaircir un petit peu mes pensées, de mettre de l'ordre dans ce que je crois, et aussi d'avoir les vrais moyens de lutter dans l'existence et d'ajouter à mon petit bonheur d'humain la joie parfaite que le Christ a programmée pour moi.